Voilà, bonjour à chacun. Donc on va faire, Marie-Christine et moi, on va partager ce matin. Donc on va parler de l'espace guérison, anciennement appelé la chambre de guérison. Donc on va, d'abord Marie-Christine va commencer parce que le cœur de l'espace guérison, c'est la guérison. Donc elle va donner un message sur la guérison. Et ensuite, je prendrai la main et j'expliquerai un petit peu toute la vision, quand on a commencé, pourquoi, tout ce qui s'est passé ces dernières années et où Dieu maintenant nous emmène. Voilà. Donc c'est important parce que Dieu est en train de nous emmener vers autre chose, toujours l'espace guérison, mais il est en train de nous montrer une autre direction. Et on voudrait vraiment le partager avec l'Église parce que c'est un ministère de l'Église Josué. Et il y a des nouvelles choses qui sont devant. Donc voilà, on avait vraiment, on pense que c'est important. Donc Marie-Christine va commencer.
Bonjour. Oui, je voudrais parler en fait pourquoi la guérison ou encore le cœur de Dieu pour la guérison. Vous connaissez tous le mandat que Dieu nous a donné. Bien souvent, on cite Matthieu 28, versets 18 à 20. Est-ce qu'on peut le relire? On peut l'afficher? C'est possible? Je vais citer plein de versets. Hein. Voilà. Donc c'est après la croix et la résurrection. Hein. Jésus a convoqué les 11 disciples sur une montagne en Galilée. Et il leur dit donc, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à... Alors, qu'est-ce qu'ils disent ? Observez tout ce que je vous ai prescrit, et c'est mieux. Moi, dans ma vie, j'ai gardé tout ce que je vous ai prescrit, mais en fait, dans les Bibles anglaises, c'est obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. On aime bien cette promesse-là. Hein, mais bon, elle vient après la demande de Jésus d'aller faire de toutes les nations des disciples. Alors, quand on lit ça, moi, pendant longtemps, c'était très intellectuel. Hein. Je me disais, bah, il faut enseigner la parole de Dieu, il faut annoncer l'évangile. Hein. Très intellectuel. Mais il y a un passage parallèle dans Marc, à la fin de l'évangile de Marc, Marc 16, verset 15. Ben, ça montre très bien que ce n'est pas seulement quelque chose de théorique, ce n'est pas seulement un enseignement théorique. Puis, donc, c'est la même chose, hein, Jésus qui dit aux 11 disciples sur cette montagne de Galilée, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Donc déjà, c'est un peu plus vaste, c'est toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Et voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru, les signes ou les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru, hein, sous-entendu. En mon nom, ils chasseront les démons. Oui, ils parleront de nouvelles langues, etc. Et un peu plus loin, il y a « Ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. » Si on peut avoir la suite, c'est un peu plus loin, c'est juste que... Oui, voilà. Ben, ça doit être verset 22 ou quelque chose comme ça. Ah oui, voilà. « Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. » Et donc, tous les malades seront guéris. Et « seront guéris », en fait, c'est un verbe grec, hein, puisque le Nouveau Testament a été écrit en grec en grande partie. Et c'est un temps qui veut dire « processus de guérison ». Donc, ce n'est pas toujours une guérison immédiate, c'est un processus de guérison. C'est important de s'en souvenir. Voilà. Et puis, donc, quand Jésus a envoyé ses disciples, avant ça, hein, déjà avant même la croix, eh bien, on voit clairement aussi que la prédication de l'évangile, ce n'est pas juste la parole, c'est la parole et les actes. Ça s'accompagne de la démonstration du royaume de Dieu. On voit ça dans Matthieu 10, verset 1. Matthieu 10, verset 1. Donc Jésus appelle ses 12 disciples, donc il leur donne le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Là, c'est dit clairement dans le texte. Et un peu plus loin, donc quand il leur donne des recommandations, il leur dit voilà, de ne rien emporter, etc. Versets 7 et 8, toujours dans Matthieu 10, il leur dit donc, en chemin, prêchez que le royaume de Dieu est proche. Et tout de suite, ça va ensemble, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Remarquez qu'il ne leur dit pas « Demandez-moi de guérir les malades, de purifier les lépreux, de ressusciter les morts et de chasser les démons », alors qu'il n'était même pas encore mort sur la croix et ressuscité. Il ne leur demande pas ça. Il leur dit « Guérissez, faites-le, je vous ai donné le pouvoir, maintenant allez-y ». Donc prêcher et montrer le royaume de Dieu, le manifester sur la terre, ça va ensemble. On voit que ce n'est pas seulement pour les 12 disciples. Dans Luc 10, verset 1 aussi, enfin à partir du verset 1, Luc 10, verset 1. Après cela, le Seigneur en désigna encore 70 autres et les envoya devant lui, deux par deux. Il y a des versions qui disent 72, mais enfin, c'est pas grave. Dans toute ville et tout endroit où lui-même devait aller. Et les instructions, versets 8 et 9, c'est... Versets 8 et 9, oui. Dans quelques villes que vous entriez et où on vous recevra, mangez ce qu'on vous présentera, guérissez tous les malades, sous-entendu tout, les malades qui s'y trouveront, et dites-leur, le royaume de Dieu est proche de vous. Encore une fois, ça va ensemble. Alors, dans les actes maintenant, donc à plusieurs endroits, il est parlé des nombreux signes et prodiges qui se faisaient par les mains des apôtres, au nom de Jésus. Et après la guérison du boiteux, même les prêtres et les scribes, ils ont convoqué Pierre et Jean au Sanhédrin, ils les ont fait amener par des personnes, ils ont dû reconnaître, après les avoir interrogés, etc., ils ont dû reconnaître, donc ça c'est dit dans Acte 4, verset 16, Acte 4, 16, « Il est clair pour tous les habitants de Jérusalem qu'un miracle notoire a été accompli par eux, par Pierre et par Jean, et nous ne pouvons pas le nier. » Donc ils étaient bien embêtés, ils ne savaient pas comment les punir, parce que s'ils les punissaient, toute la foule allait se révolter, parce que voilà, c'était clair qu'ils avaient fait un miracle de la part de Dieu. Dans Acte 8, versets 5 à 7, on voit, là on ne va peut-être pas lire le passage, mais on voit que Philippe prêche Christ en Samarie, et en même temps, il opère des guérisons miraculeuses. Encore une fois, ça va ensemble. Et c'est les guérisons, en fait, qui touchent les gens et qui leur permettent de recevoir la parole. C'est parce qu'ils voient en même temps le concret qu'ils reçoivent la parole. Voilà. Alors, pourquoi c'est tellement important de le manifester ? C'est parce que c'est une démonstration concrète, la guérison, de ce que Jésus a fait à la croix. Bien souvent, on croit qu'à la croix, Jésus a porté nos péchés. Mais ce n'est pas ce qui est dit dans Ésaïe 53. On va le voir un peu plus tard. Alors, on voit ça, donc, que vraiment la guérison, c'est démontrer ce que Jésus a accompli à la croix. On le voit dans Matthieu 8, versets 16 et 17. Là, c'est donc Jésus qui le fait. Matthieu 8, 16 et 17. On amena à Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les mauvais esprits par sa parole et guérit tous les malades. Ainsi s'accomplit la parole du prophète Ésaïe, donc Ésaïe 53. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Et si on étudie Ésaïe 53, donc en regardant soit l'hébreu, soit si on ne connaît pas l'hébreu, au moins une traduction plus littérale de la parole, on voit que sur la croix, Jésus, il n'a pas porté seulement nos péchés, il a porté aussi nos maladies. C'est les deux ensemble. Donc il a porté nos souffrances physiques, psychique, morale, il a tout porté sur la croix. Et il les a portés, non pas pour les subir simplement, mais pour détruire leur pouvoir. Il a détruit le pouvoir du péché et de la mort, ça on le dit souvent, mais il a aussi détruit le pouvoir de la maladie. Et quand on dit pouvoir, on veut dire domination du péché sur nous ou domination de la maladie sur nous. Tout ça, ça a été détruit par Jésus à la croix. Il l'a accompli, il l'a fait. Donc c'est à nous maintenant de l'accepter et de le vivre, déjà pour nous-mêmes, pour nos frères et sœurs, et puis pour les gens de la rue. Donc c'est pour ça, c'est parce que la guérison confirme ce que Jésus a fait sur la croix, démontre clairement que c'est accompli. C'est pour ça que les disciples, après l'ascension de Jésus, ça, on le voit dans Marc 16, verset 20. Les disciples s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux. même s'il était déjà parti au ciel à la droite du Père, hein, et il confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient, ou par les miracles qui l'accompagnaient. Et c'était beaucoup de miracles de guérison. Hein. Pas que ça, sans doute, mais beaucoup de miracles de guérison. Voilà. Donc, manifester la guérison, c'est quand on parle de l'évangile, quand on veut communiquer l'évangile, quand on veut annoncer le royaume de Dieu, c'est quelque chose de normal. Mais pourquoi c'est tellement important? Là, j'ai pas encore touché la raison principale. C'est parce que la guérison, ça montre la nature même de Dieu. Dieu est amour. C'est, il est pas seulement le tout-puissant, le créateur, etc., mais il est amour. Il est bon, intrinsèquement bon. Et donc ça, c'est une révélation que Jean, je sais pas, l'apôtre Jean, hein, je ne sais pas s'il l'a reçu dans le courant de sa vie, mais en tout cas, il l'a dit à la fin de sa vie, dans l'épître de Jean, hein, 1 Jean 4, bon, il le dit au verset 8 et au verset 16, à nouveau, il le répète, et puis il fait tout un passage sur l'amour de Dieu et sur les conséquences. Hein. C'est la chose la plus importante qu'il ait découvert sur Dieu, que Dieu est amour. Et souvent, quand on parle de Dieu, ben, on parle du Tout-Puissant, on dit que c'est un Dieu glorieux. Et quand on parle de la gloire de Dieu, ben, on veut dire la grandeur, la puissance, l'onction du Saint-Esprit, toutes ces choses-là. Hein, moi aussi, je pensais ça. Hein. Pendant des années, j'ai pensé comme ça. J'ai pensé que la gloire de Dieu, voilà, c'était Dieu qui était grand, tellement grand que bon, on tombe par terre devant lui, voilà, qu'on ne supporte pas sa grandeur. Je pensais que c'était ça. Mais il y avait un passage biblique qui m'ennuyait beaucoup. Je ne savais pas trop comment comprendre ça. Peut-être vous y pensez aussi en ce moment. C'est quand Moïse veut connaître de plus près l'intimité de Dieu. On le voit dans Exode 33, versets 13 à 23. Quand Moïse veut connaître Dieu plus intimement, il lui demande « Fais-moi voir ta gloire ». Ça, il le demande au verset 18. Voilà, donc il veut connaître plus intimement, hein, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, etc. Donc il lui demande de marcher avec eux, mais il veut le connaître plus intimement. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux? Voilà, et donc Dieu dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes. Oui, et ensuite au verset 18, Moïse dit « Fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. » Et comment est-ce que Dieu répond? Eh bien, en fait, Dieu lui répond, juste après, au verset 19, « Je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. » Et le nom, en fait, c'est la personnalité, la nature même de Dieu, sa personnalité, comment il est. Donc, je proclamerai devant toi qui est l'Éternel. Et c'est ça, faire voir la gloire de Dieu, c'est faire voir la bonté de Dieu et proclamer qui il est. Et donc, juste avant, Dieu avait promis à Moïse, je ferai ce que tu me demandes. Donc la gloire de Dieu, c'est la bonté de Dieu. Hein? Et au verset 22, Dieu lui a bien dit, quand ma gloire passera. Hein? On voit comment Dieu se décrit lui-même, c'est juste après, Exode 34, versets 5 à 7. C'est un sujet tellement important que dans Exode, bon, c'est bien développé. Exode 34, versets 5 à 7. L'Éternel descendit dans une nuée, se tint là près de Moïse, proclama le nom de l'Éternel, c'est-à-dire il proclama qui il était, qui l'Éternel est. Et l'Éternel passa devant lui et il s'écria, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant. Et en anglais, compatissant, c'est plein de compassion. C'est plus clair que compatissant, je trouve. Lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusque 1000 générations, etc. Donc quand Dieu se décrit lui-même, quand il dit qui il est, eh bien, il ne parle pas de sa puissance, de sa grandeur, etc. Mais il parle d'amour. Il parle de grâce, de bonté, de compassion, de fidélité, de patience bienveillante. C'est tout ça qui décrit qui Dieu est. Alors c'est sûr, il est le Tout-Puissant aussi. Mais le plus important dans sa nature, c'est qu'il est amour, il est bon. La maladie ne vient pas de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui nous envoie des maladies pour nous punir ou je ne sais quoi. Non, la maladie ne vient pas de Dieu, elle vient du diable. C'est le diable qui est le voleur. C'est le diable qui cherche à nous atteindre de toutes sortes de manières et à nous tuer, à tuer l'espérance en nous, à tuer oui, tout ce qui est de Dieu en nous. Il y a au moins 80 versets dans la parole de Dieu qui citent la bonté de Dieu ou la bonté de l'Éternel, sans parler de tous les versets qui citent la bienveillance de Dieu, sa grâce, sa miséricorde, sa compassion, son amour, ou de tous les versets qui disent Dieu est bon. C'est pas bonté, c'est bon, mais bon. Voilà. Au psaume 145, verset 9, ça élargit encore un peu plus, parce qu'on voit que l'Éternel est bon envers tous, pas seulement ceux qui croient en lui, tous. Et ses compassions s'étendent sur tous ceux qu'il a créés. C'est on ne peut plus clair. L'Éternel est bon envers tous et ses compassions s'étendent sur... Bon, toutes ses œuvres, c'est mal traduit, c'est tous ceux qu'il a créés. Tous ceux, C-E-X, qu'il a créés. Alors comment Jésus guérissait les malades? En fait, c'était à cause de sa compassion. Matthieu 20, verset 34, saisi de compassion, Jésus toucha leurs yeux, c'est des aveugles, hein, et aussitôt ils recouvrèrent la vue et le suivirent. Donc c'est parce qu'il avait la compassion qu'il guérissait. C'était ça qui le faisait agir, c'était pas montrer la puissance de Dieu, mais c'était vraiment la compassion. Matthieu 14, verset 14, quand Jésus sortit de la barque, il vit une grande foule, en eut compassion. Et il guérit les malades, et certaines versions disent les infirmes, alors à voir, qui s'y trouvaient. Et puis dans Marc 1, versets 40 et 41, il y a aussi tout un passage où on voit clairement que Jésus guérissait par compassion. Et il le fait encore actuellement au travers de nous, si on le laisse faire. Hein, il guérit par compassion. Il dit dans Jean 4, 34, « Ma nourriture, ce qui me fait vivre, hein, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est-à-dire de faire la volonté du Père, de Dieu le Père, et d'accomplir son œuvre. » Donc on voit bien que la guérison, ben, c'est un acte d'amour de Dieu. C'est Dieu qui veut montrer son amour, donner un signe de son amour en opérant des guérisons miraculeuses ou des guérisons plus progressives. Voilà. Et que nous dit Jésus? Il nous dit, par l'intermédiaire des disciples, hein, de Paul notamment, Galates 5, verset 13, « Par amour, soyez serviteurs les uns des autres. » Alors on peut se dire, bon, c'est serviteurs des frères et sœurs de l'Église seulement. Mais il y a un autre passage qui est beaucoup plus clair, c'est justement l'apôtre Jean, hein, c'est pas pour rien qu'on l'a appelé l'apôtre de l'amour. Dans 1 Jean 3, versets 16 à 18, donc Jean donne justement les conséquences que Dieu soit amour. À ceci, nous avons connu l'amour, c'est qu'il a donné sa vie pour nous. Et nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Et en fait, nous devons, ben, c'est tout simplement, si Jésus vit en nous, comme lui veut continuer à donner sa vie pour les autres, eh bien, c'est normal, quelque part, de vouloir donner notre vie, c'est-à-dire de vouloir nous donner aux autres. Si quelqu'un possède les biens du monde, et on pourrait dire aussi les biens du royaume de Dieu, qu'il voit son frère dans le besoin. Donc son frère, c'est au sens large. Hein. On est tous enfants de Dieu, qu'on croit en lui ou pas. Donc c'est dans ce sens-là. Hein. Et qu'il lui ferme son cœur, comment l'amour de Dieu demeurerait-il en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole ni avec la langue, mais en action et en vérité. Alors c'est l'un des moyens de le faire, justement, d'oser prier pour les malades et qu'ils soient guéris. Bien sûr, c'est prendre des risques, mais c'est l'un des moyens de le faire, de mettre en œuvre l'amour de Dieu. Donc voilà, c'est surtout par amour qu'il nous faut continuer à avancer dans le domaine de la guérison. C'est sûr qu'on a besoin que notre foi grandisse, hein, mais on continue pas à pas. Si la guérison ne vient pas tout de suite, eh bien on persévère, on continue pas à pas, simplement parce qu'on aime les personnes et qu'on veut que le royaume de Dieu se répande. Et le seul moyen, c'est de démontrer l'amour de Dieu, que les gens puissent être attirés. C'est par l'amour de Dieu qu'ils vont être attirés. C'est pas par des... Oui, par des arguments même très, très bien cherchés. C'est par l'amour de Dieu qu'ils vont être attirés. Et ils ont besoin de savoir que la maladie, non seulement ce n'est pas une fatalité, mais ce n'est pas voulu par Dieu. Ce n'est pas Dieu qui les punit ou quoi que ce soit, ou qui aime les voir souffrir. Non, Dieu ne veut pas la maladie, pas plus qu'il ne veut que le péché continue à nous enserrer, à nous tenir esclaves. Hein ? Dieu veut qu'on soit libre, ça a été dit tout à l'heure dans les chants, là, et libre du péché et aussi de la maladie et de toute souffrance, quelle qu'elle soit. Voilà, donc continuons à progresser vraiment dans ce domaine, hein, à avancer, à persévérer, non pas par un désir de puissance, mais vraiment par amour.
Merci Marie-Christine. C'était excellent. Même ça m'a fait du bien. Je ne sais pas si ça vous a fait du bien, mais ça m'a fait du bien. Ça vous a fait du bien ? Ça fait du bien quand on entend la vérité. C'est ça qui nous rend libre. C'est ça qui nous booste. C'est ça qui augmente notre foi en Dieu. Parce que d'un coup, il y a la parole, il y a ce que Dieu dit. Et puis, ça augmente juste notre foi et notre confiance en lui. Que, waouh ! Donc moi, je vais parler de choses plus concrètes. Je vais partager un peu la vision. Donc, quand on a commencé, pourquoi on a commencé tout ce parcours, parce que ça fait 10 ans qu'on a commencé en fait. On est revenu un peu sur les dates et tout. Ça fait 10 ans qu'on a commencé. Ça, c'est dingue, ça paraît pas, et en même temps ça paraît, et ça a été une belle aventure. Hein ? C'est un anniversaire à fêter à la rentrée. Et ça n'a pas été linéaire, ce n'est pas, avec Dieu c'est jamais linéaire. Et il y a eu vraiment c'est challenging, c'est passionnant. Et en même temps, on va voir toutes les phases qu'on a rencontrées. On a démarré avec une certaine forme. Quelques années après, Dieu nous a parlé et on a bougé sur autre chose. Et là, Dieu vient encore de nous parler et on va encore bouger avec Dieu dans comment il nous conduit. Et c'est ça qui est vraiment passionnant. C'est d'abord recevoir sa vision, mais après de l'emmener et d'entendre ce qu'il nous dit et de bouger avec lui dans la vision pour qu'elle prenne la forme qu'elle doit prendre et que la source, elle aille où elle doit aller. Donc, en 2005-2006, j'ai fait une école de guérison sur un samedi par mois sur une année à Ouron-la-Ville, en Suisse. Je ne sais pas si vous connaissez, il y a une école de guérison. Donc, c'est que le samedi la journée. J'ai fait ça et je n'avais jamais entendu des chambres de guérison du tout. Et là-bas, j'ai commencé à entendre parler des chambres de guérison. Alors, en anglais, c'est « healing rooms ». On peut dire les pièces de guérison. En français, ça a été traduit des chambres de guérison. Et l'histoire, il y a une histoire, il y a un historique, il y a quelque chose avec ça. C'est qu'en 1914, aux États-Unis, à Spokane, à côté de Washington, il y a un homme qui s'appelle John G. Lake, qui a vraiment eu à cœur, il avait un ministère de guérison et de voir les gens guéris, qui a commencé à ouvrir des salles à Spokane, et à inviter les malades, les chrétiens ou les gens de la ville de Spokane ou des États-Unis à venir en mettant en place des pièces où des personnes qui se sentent appelées et qui ont une passion de voir les gens guéris étaient là pour les servir dans la prière de guérison. Et c'est énorme, Dieu a mis une énorme faveur là-dessus. Et de 1915 à 1920, il y a eu 100 000 guéris confirmés. L'hôpital de Spokane a dû fermer. Et Spokane a été appelée la ville la plus saine des États-Unis. Donc ça a continué comme ça quelques années, puis cet homme est décédé, et la vision s'est arrêtée. Mais il avait reçu une parole prophétique avant de mourir, et vraiment Dieu lui avait montré que ce mouvement allait repartir, ces chambres de guérison, Dieu allait réinitier ça en touchant des gens. Et en 1987, il y a un homme, un Américain, qui s'appelle Carl Pierce, qui a vraiment repris ce manteau et qui a recommencé à Spokane à ouvrir des chambres de guérison. Et à partir de là, ça s'est répandu un petit peu partout. C'est arrivé en Suisse. Et moi, en étant en Suisse, j'ai entendu, je suis revenue, j'ai parlé aux anciens, à l'église, et on était là. OK, on veut vraiment, on veut ça. On veut commencer ça. Donc voilà comment tout a commencé. Et c'était en 1900, en 1900. En 2007. Voilà. Donc, en 1900. Donc, voilà. Donc, il y a un long processus qui a commencé. Donc, les chambres de guérison, à la base, ce n'est pas un ministère d'une église locale. C'est rattaché à l'AICG, l'Association internationale des chambres de guérison, qui est justement à Spokane. Donc, au départ, quand on a démarré, on était rattaché à cette association. Donc, ce n'était pas un ministère de l'église Josué. L'église Josué, bien sûr, était partie prenante. Et aussi, il y a une particularité, c'est que c'est interdénominationnel. Ce n'est pas juste une église ou des chrétiens d'une église. Le but, c'est qu'il y ait l'unité, parce que dans l'unité, Dieu se manifeste. Il y a vraiment quelque chose au niveau de l'unité. Donc, le directeur pour la France, il s'appelle Mourad Ziani. On l'a fait venir, il nous a donné une formation. On a été, donc, il est le représentant de l'AICG en France. Donc, on a été sous cette couverture-là de l'AICG via Mourad. On a fait les choses en règle. Il a fait une formation. On a invité large. Le but, c'était de vraiment inviter, d'aller dans les églises, d'inviter. Et on s'est retrouvés, un noyau, à être ici. Et de cette réunion, 30 personnes de différentes églises ont dit « Je suis touchée par ça, cette vision, je veux m'engager. » Plein de gens qui sont là aujourd'hui, enfin plein, il y a des personnes. Et Dieu a regroupé des gens. Et ce qui était beau, c'est qu'il y a des personnes qui disaient « J'aurais jamais pu dire que je voulais une chambre de guérison. » Mais quand j'ai entendu parler de ça, j'étais prête pour ça. Donc Dieu a rassemblé, c'est pas nous, c'est pas Marie-Christine et moi, absolument pas. C'est Dieu qui avait préparé des gens. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est comme ça. Il y a une passion dans le cœur de ces personnes. Et donc, après toute une année de processus, on a pris 9 mois, on s'est rencontrés pour se connaître, pour prier, pour poser les choses. On a démarré. Au départ, ça s'appelait donc la chambre de guérison, dans les anciens locaux à côté. Et on a décidé de faire 2 fois par mois. Et on était une équipe de 35 personnes au départ. Donc, il y avait des personnes de l'église Josué. Il y avait des personnes qui venaient de Saint-Louis, de Célestat, qui viennent encore de Célestat, de Colmar, de Belfort, des personnes de l'église catholique, des catholiques charismatiques, des personnes de la DD de Saint-Louis, des personnes encore de la Porte Ouverte, des personnes de l'église Ménonite, des personnes d'autres églises évangéliques. C'est vraiment un rassemblement de frères et sœurs dans l'unité qui veulent voir la guérison. Donc voilà, on a démarré. Et on a vu des gens venir. Et donc, on a continué sous cette forme pendant 7 ans. Donc, tous les premiers jeudis soirs du mois, on était là, avec une équipe pour le jeudi, une équipe pour le lundi après-midi, le troisième lundi du mois, l'après-midi. Et donc, on a fait ça depuis 10 ans, sauf les vacances où on ferme, mais on a toujours été là. Des gens sont venus, beaucoup de gens, des gens d'Église Josué, des gens d'autres églises, des gens de différentes régions, même en France, sont venus. On le fait aussi par téléphone, on continue par le faire. Il y a des gens qui nous appellent. On n'a pas encore mis les Skype en place parce qu'il n'y a pas de besoin, ça n'a pas été demandé. Mais on a des appels. Quelquefois, à 20h, on a le téléphone qui sonne et c'est quelqu'un qui appelle. Donc, on donne des créneaux de 20 minutes. Si vous venez, alors je pense que quasiment tout le monde est déjà venu, vous venez, il y a une salle d'attente. Il y avait une salle d'attente. Vous remplissez un document, et puis ensuite, une équipe va prier pour vous pendant 20 minutes. Et vraiment, cette équipe, elle va être vraiment connectée au Saint-Esprit. C'est aussi la richesse qu'il y a, c'est qu'on écoute et on regarde ce que le Saint-Esprit nous montre quand on prie pour les gens. Donc voilà un petit peu comment on a commencé. On a vu des guérisons pour nous-mêmes. Plusieurs fois, j'ai été guérie. Je suis venue avec quelque chose, différentes choses, j'ai été guérie. Je suis sûre qu'il y a plusieurs personnes ici qui pourraient dire qu'elles sont venues et qu'elles ont été guéries de quelque chose, plus ou moins gros, petit. Je dirais que les plus grosses guérisons qu'on a vues, c'est des personnes qu'on ne connaît pas, pour lesquelles on n'a jamais posé les mains dessus et qui n'étaient pas chrétiennes. On a eu une demande. En fait, il y a 3 ans de ça, on a une personne dans le sud qui m'a contactée, que je connais, et sa fille et son gendre voulaient un bébé depuis très 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 longtemps et ils n'arrivaient pas. Donc on a prié, elle est tombée enceinte, mais dès le début, elle a commencé à avoir des contractions. Donc vraiment, tout l'espace guérison s'est engagé, on était sur la brèche à prier. Et quasiment toutes les semaines, il y avait une alerte, elle était à l'hôpital et elle allait accoucher. Et on priait, et ça s'arrêtait. Et elle a passé les 9 mois et le bébé Louis est né à son terme à 9 mois. Vraiment, on nous a envoyé du champagne, on a fêté. Vraiment, ce petit, on l'aime comme si c'était le nôtre. Et Dieu a gardé ce bébé dans le ventre de sa maman pendant 9 mois. Mais c'était une bataille. À chaque fois, on recevait un SMS, j'envoyais à l'équipe, on priait et les contractions s'arrêtaient. Donc, le papa de Louis, qui n'est pas croyant, la maman est croyante, son meilleur ami, qui a 35 ans, les médecins ont découvert qu'il avait un cancer de l'œsophage. Voyant ce que Dieu avait fait pour son bébé, il lui a dit, je peux dire aux gens qui ont prié pour mon fils de prier pour toi, si tu es d'accord, et Jésus peut te guérir. Donc nous, on a reçu une information. On a commencé à prier pour ce monsieur, et 3 mois après, on a reçu un mail, alors que vraiment, c'était un stade très avancé. 3 mois après, ils ont fait à nouveau des examens, et ils n'avaient plus rien. Mais rien. Et jusqu'à ce jour, il n'a plus... En tout cas, on n'a pas eu de retour jusqu'à aujourd'hui. Il n'a plus rien. Jésus l'a guéri. On n'a pas touché. On ne le connaît pas. On ne sait même pas sa tête, à quoi il ressemble. Il avait une foi dans la petite foi de son ami parce qu'il a vu Jésus faire un miracle pour son fils. La petite foi qu'il a mis et la grosse foi qu'on avait et la bonté de Dieu a fait que cet homme a été guéri. Et c'est un des cancers les plus forts, apparemment, le cancer de l'œsophage, surtout quand on est jeune. Donc on a vu des choses comme ça, on a vu énormément de guérisons. Alors on dit des petites, je vous assure que quand vous priez pour la guérison, il n'y a pas des petites et des grosses. Il n'y a pas de recette. On n'a pas mis la main sur cet homme, on a prié à distance, il est à Montpellier, on ne le connaît pas, il a été guéri. Il y a d'autres personnes qui avaient la même chose, pour lesquelles on a prié, on a mis les mains dessus, on a jeûné, et on n'a pas vu de guérison. Il n'y a pas de recette. Il y a juste... Il y a juste de croire aussi qu'il y a plusieurs critères au niveau de la guérison, je ne veux pas trop prendre de temps dessus, mais on reprend un terrain, et quand on reprend un terrain, il y a une bataille, donc il y a vraiment besoin de persévérance, de tenir le terrain. C'est pour ça que même des fois, il y a des samedis, il y a des jeudis ou des lundis où on est venu, des fois il n'y a personne qui vient, c'est rare, mais dans ces moments-là, on sait que de toute façon, on tient le terrain, on est là. On sait que dans l'esprit, on le tient. On ne le perd pas. Et en fait, on est en train de reprendre ce terrain. On est aussi en train d'ôter. À chaque fois qu'on vient et qu'on prie, on a vraiment eu cette vision au début, qu'on débouche des puits. Et qu'à chaque fois qu'on prie pour une personne, on enlève une pierre. Et on enlève une pierre. Et on enlève une pierre. Parce que ce puits de guérison, il a été bouché en France. Et donc, c'est un travail de persévérance, un travail d'avoir une vision. Parce que si nos yeux sont justes si la personne est guérie ou pas, on abandonne. Et puis, il y a aussi un principe de semer. Si vous semez des patates aujourd'hui, alors bien sûr que Dieu est le Dieu du miraculeux. Marie-Christine disait que la guérison, ça peut être un miracle, c'est instantané, mais c'est aussi un processus. Et si vous plantez des patates aujourd'hui et que vous allez demain creuser, est-ce que vous aurez une patate? Non. Okay. À moins qu'il y ait un miracle. Mais le processus normal, c'est qu'on sème et à un moment donné, on ne se décourage pas, on garde la foi, on proclame, on arrose, on célèbre. Et à un moment donné, c'est ça. Et on va récolter le fruit de notre semence. Donc si on sème de la guérison, on va récolter de la guérison. Et on sait qu'il y a nos yeux sont aussi sur ces promesses de Jésus, qu'il y a des plus grandes choses qui viennent. On est appelé à faire des œuvres plus grandes que celles que Jésus a faites. Donc vraiment, on tend vers quelque chose. La foi, c'est voir les choses qu'on ne voit pas encore, mais qui pourtant sont là. Donc on est une magnifique équipe, des personnes de foi, pas mal de personnes qui ont été guéries de grosses maladies, comme moi quand je suis née, j'aurais dû mourir, mais Dieu m'a touchée au niveau de la foi. Il y a des personnes qui avaient des cancers, il y a des personnes qui avaient des maladies incurables et qui ont été guéries. Donc elles ont une foi aussi et un désir de communiquer ça. Il y a d'autres personnes qui n'ont pas été guéries, mais vraiment, c'est des gens qui ont été appelés par Dieu pour libérer ça. Donc pendant 7 ans, on a fait ça, ça avait cette forme-là. Et puis, au bout de 7 ans, on a senti vraiment avec Marie-Christine, et on l'a partagé avec le leadership de l'Église, qu'on ne savait pas pourquoi. Des fois, Dieu nous dit de faire des choses, on ne comprend pas. Ça, c'est ce qui est bien avec Dieu, il n'y a pas toujours besoin de comprendre, ok? Et donc, on a senti que Dieu nous demandait que ce ministère devienne un ministère de l'Église Josué. et soit sous la couverture de l'église Josué. Donc on a gardé des très très bonnes relations avec Mourad, avec vraiment, mais ce ministère est passé sous la couverture et c'est devenu un ministère de l'église Josué. Et à ce moment-là, on a aussi eu à cœur de mettre en place, de changer un peu la forme. C'est qu'au lieu que les gens viennent et qu'ils attendent comme dans une salle d'attente, dans un couloir, on avait vu, il y a d'autres endroits où il y a des chambres de guérison, ils ont une salle en fait, que nous on a appelée la Encounter Room, alors c'est la salle de la rencontre. C'est un espace qu'on va créer pour permettre à Jésus de venir. Donc, il y a 3 ans, on l'a mis en place et ça se passe donc, au lieu que les gens aient dans la salle d'attente, les gens vont venir dans cette salle. Et il y a de la louange prophétique, il y a de la danse prophétique et il y a du dessin prophétique. Et c'est un espace concret pour que le Saint-Esprit vienne. Et pendant que les gens attendent, on permet à Jésus de venir et de les guérir, de les aimer, de les toucher. Et notre désir, c'est qu'ils soient guéris ici, avant même d'arriver dans la salle de prière. Alors on a été super encouragés, la première fois qu'on l'a mise en place, il y a une personne qui est venue, elle a dit qu'elle avait été guérie à 80% ici. Elle est venue, elle a reçu la prière, elle avait dit que Dieu avait fait 15% de plus, et elle était revenue dans la salle ici, et Dieu avait complété sa guérison. Vraiment. Donc c'est vraiment un lieu où on veut laisser la présence du Saint-Esprit toucher, aimer, transformer. Et donc il y a 3 ans, on a mis en place, avec une nouvelle équipe qui nous a rejoints, des louangeurs, des danseurs, donc ça c'est les gens de l'église Josué, et des personnes qui peignent pour libérer tout ça. Donc voilà, il y a 3 ans, on a rajouté ça. Donc les gens, c'était aussi important pour nous, parce que quand les gens, on les laisse un petit peu baigner dans cette atmosphère, et quand ils arrivent dans la salle, leur niveau de foi et leurs yeux sont pas que sur les problèmes. Les 10 minutes où ils ont été dans la présence de Dieu, on voit que leur foi et leurs yeux sont sur Jésus et plus que sur les bobos. Ce qui fait que pour nous, c'est aussi plus encourageant. On n'a pas à relever les gens dans leur foi et à prier, mais ils sont déjà positionnés dans leur esprit à une bonne place pour recevoir. Donc voilà, donc il y a 3 ans, on a rajouté ça. Et ça fonctionne toujours sur le même modèle, 2 fois par mois, avec les équipes qui sont super. Donc ça a grandi l'équipe et c'est vraiment quelque chose que Dieu a fait et c'est super. Pardon ? Oui. Oui, il y avait aussi pour nous, quand Dieu nous a dit vu que c'est être des personnes de différentes églises, quand Dieu a commencé à nous parler que ça devienne un ministère de l'église Josué, Marie-Christine et moi, on s'est dit, est-ce qu'on va perdre ? Est-ce que les gens qui ne sont pas de l'église Josué vont se dire, c'est l'église Josué qui reprend ça et elles vont partir ? Mais absolument pas. Dieu avait préparé les cœurs et en même temps, quand on se réunit, même si c'est dans ces locaux-là, ce n'est pas à propos de nos églises. C'est juste à propos de la guérison et de Jésus qui guérit. Donc ça n'a créé aucune tension. Personne n'est parti et on a continué. Dieu avait préparé les cœurs aussi. Donc c'est bien d'obéir à Dieu quand il parle. Et donc voilà, on continue comme ça depuis donc 3 ans. Et puis durant cette année, donc c'est là qu'il y a le changement. Durant cette année, on a vraiment senti que Dieu nous interpellait. Donc le mouvement de la chambre de guérison, de l'espace guérison, du début, c'était on est dedans. Et les gens viennent de l'extérieur vers l'intérieur, dans l'église. Et cette année, on a vraiment senti que le Saint-Esprit nous interpellait à continuer à ce mouvement de l'extérieur vers l'intérieur, mais aussi de créer un autre mouvement qui est ce mouvement de l'intérieur vers l'extérieur. C'est-à-dire que ce qu'on va mettre en place en début d'année, là, à la rentrée, et c'est vraiment le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu, il est pour ses enfants, il est pour son église, et il veut nous restaurer. Il ne veut pas juste nous restaurer pour qu'on soit content et c'est bien. Il veut nous restaurer, et la mission de l'église, c'est vraiment de nous nourrir, de nous faire grandir, de nous restaurer, de nous équiper pour aller. Ok, Marie-Christine l'a lu tout à l'heure. C'est ce mouvement-là. Donc, on va toujours garder un temps pour les chrétiens, pour l'intérieur, et c'est important, il y a des besoins. Mais on va aussi, donc on fera une fois, ça sera dans l'Église et pour les chrétiens. La vision à la base était quand même pour les chrétiens et aussi des personnes non chrétiennes qui voulaient venir. C'était ouvert sur l'extérieur, mais c'était un mouvement de dehors vers dedans. Et ce que le Saint-Esprit nous dit, c'est que maintenant, c'est le temps d'aller de dedans vers la ville, vers les enfants de Dieu qui ne le connaissent pas encore et qui ont besoin de voir l'amour de Dieu manifesté au travers du salut, au travers de la guérison. Donc à la rentrée, on va faire une fois donc ici, et puis on va mettre en place, ça sera, on ne sait pas encore quand, mais ça sera sûrement un samedi après-midi, on aura des équipes. Donc le but aussi de partager la vision, c'est que si certains d'entre vous se sentent interpellés, donc le modèle qu'on aura, c'est qu'on ne veut pas juste aller trouver tout le monde et dire « Jésus veut te guérir ». Le modèle qu'on a, c'est qu'on veut aller avec le Saint-Esprit. Et on veut faire une espèce de petite chasse au trésor, où on va se réunir, on va prendre du temps ensemble, on va écouter le cœur de Dieu, où il veut nous envoyer, qui il veut toucher ce jour-là. Et quelle personne a tel problème? Et on veut pouvoir aller en ville et dire « Regardez, on fait une chasse au trésor, vous êtes notre trésor ». Et que les gens voient que Dieu a révélé leur problème, leur souffrance, et qu'il envoie son amour pour les guérir. Donc on va vraiment mettre ça en place et emmener la guérison, le fleuve de guérison, dans la ville. Et laisser Dieu guérir et montrer son amour à l'extérieur. Donc voilà où on en arrive à la rentrée. Donc vous voyez que ce n'est pas linéaire. Hein. La vision et le cadre restent le même, toujours, plus ou moins. Mais le cœur de Dieu, il est pour ses enfants, il est pour le dedans. Et en même temps, il y a deux mouvements, il y a deux pôles. Il est pour l'intérieur, mais l'intérieur pour l'extérieur. Donc voilà, ça c'est nouvelle continuation que Dieu donne à l'espace guérison. Donc si vous vous sentez interpellé, peut-être pas spécialement aujourd'hui, mais si vous vous dites « Waouh, ça m'intéresse, c'est mon cœur, Dieu a mis ça », ce qu'on veut, c'est pas prendre des gens. Ce qu'on veut, c'est que si vous vous sentez à votre place à ce niveau-là et que ça brûle dans votre cœur, vous puissiez venir nous voir. S'il y a des personnes qui se rajoutent, on va faire une petite école de guérison à la rentrée. Il y a des moyens aussi pour former, équiper, encourager. Et puis, on va greffer les nouvelles personnes à l'équipe et on va voir ce que Dieu va faire. Et on va y aller ensemble, en tant que corps, que chacun puisse libérer, et ça va être fun. Parce qu'avec le Saint-Esprit, c'est toujours fun. Et même s'il y a des challenges, ça fait 10 ans qu'on le fait, on a grandi, on a été transformé, parce qu'on a appris aussi à compter sur Dieu quand on ne comprend pas les choses, mais savoir que Dieu est bon, Dieu est souverain, et puis ne pas abandonner. Je crois que même des fois, on a laissé Dieu être Dieu. Quand on prie pour la guérison, on doit laisser Dieu être Dieu. S'il y a de la gloire et des guérisons, la gloire, elle est pour lui. Si rien ne se passe au niveau de la guérison, dans ce pour quoi on priait, la gloire, elle est à lui. OK ? Tout est par lui, en lui, pour lui. Nous, ce qu'on fait, c'est que Jésus a dit, allez, guérissez les malades, ressuscitez les morts. On est juste, on prend des risques. À chaque fois, on prend un risque et on dit « Ok, Jésus, mais c'est toi. » Et on le fait. Et puis, merci de révéler ta gloire et de révéler ton royaume et de le libérer sur la terre. Donc, ce n'est pas à notre sujet, c'est à son sujet. Ok ? Voilà, donc si vous êtes touché, même si ça vous paraît peut-être « Ouh, c'est impressionnant, je ne sais pas faire », venez nous rejoindre dans cette aventure, dans l'aventure que Dieu a pour nous en tant qu'Église, en tant que... Peut-être que les personnes qui sont de l'espace guérison, si vous pouvez vous lever, il n'y en a pas beaucoup, il y a un tout petit noyau aujourd'hui. Encounter Room aussi, hein, tout l'espace guérison. Hein. Voilà, on est 32 en tout. Donc voilà, c'est merci à chacun. C'est vraiment un travail d'équipe. C'est une joie. Et puis on s'attend à des plus grandes choses, vraiment. Les plus grandes choses sont à venir. Pour notre pays, pour notre ville, il y a ce chant hein, qui dit « Les plus grandes choses sont à venir ». Et à chaque fois qu'on le chante, je pense vraiment à ça. Il est fort ce chant et c'est ce que Dieu veut faire. Voilà, un grand merci pour vos prières, un grand merci de soutenir ce ministère de guérison. Et c'est vraiment un terrain qu'on reprend et on veut y aller ensemble et persévérer. On est en train de devenir des personnes de foi. Et la foi aussi, elle grandit quand on exerce la foi. Et la confiance et la dépendance de Dieu fait que notre foi grandit. C'est vraiment la dépendance en qui il est et c'est juste merveilleux. Voilà.